Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, le programme Planning Familial 2020 prévoit de faciliter l'accès à plus à 120 millions de femmes et jeunes filles supplémentaires aux contraceptifs modernes d'ici 2020. Des progrès considérables viennent d'être réalisés dans 69 pays à faible revenu, dont la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle de plus de 300 millions de femmes qui ont accès, n'est-ce pas, aux contraceptifs modernes. Alors, que restait-il à faire pour permettre à un grand nombre de femmes et jeunes filles de la RDC d'accéder au service de planning familial d'ici 2020? Docteur Arsène Binanga, directeur pays de Tulane University et président national du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale à RDC, est notre invité. Docteur Arsène, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on peut dire que des progrès, des avancées significatives ont été réalisées par rapport à ces programmes Planning Familial 2020.
Oui, disons qu'il y a des progrès. Il y a beaucoup de progrès qui sont enregistrés. Mmh. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé aux chiffres que le monde aurait souhaité avoir aujourd'hui. En principe, on devait être à 49 millions de femmes additionnelles. Mais on a pu enregistrer 30 millions de femmes additionnelles. Donc, le monde entier, par rapport aux 120 millions de femmes additionnelles qui doivent accéder à la planification familiale moderne, est en train de faire des progrès. Mais le progrès reste encore faible, mais nous avons l'espoir que nous allons pouvoir atteindre les 120 millions de femmes additionnelles d'ici 2020.
Oui. Alors, c'est généralement dans quel pays où il y a eu beaucoup plus des avancées?
Les avancées ont été enregistrées dans beaucoup de pays.
Dans beaucoup de pays, bien sûr.
Mais je vais plutôt parler pour le cas de la RDC.
Oui.
Pour le cas de la RDC, nous avons fait des avancées, même si c'est encore faible. Mais quand nous essayons de faire les reculs, nous nous rendons compte que nous avons vraiment avancé. La RDC, avant que le pays ne prenne des engagements en 2013... faisait des avancées annuelles très faibles. Mais actuellement, on a commencé à avoir des avancées annuelles de plus de 0,5. Et quand vous prenez la ville de Kinshasa, on a fait des avancées l'année passée de 3,4, ce qui est exceptionnel.
Voilà, ce qui est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre pays pour faciliter à un plus grand nombre de femmes et jeunes filles au contraceptif? Et pourquoi d'ailleurs le faire?
Oui, pourquoi le faire? C'est vraiment important. La planification familiale, il faut le comprendre comme un ensemble de techniques qui devraient aider un couple, des individus, à avoir les enfants en nombre voulu et au moment où ils veulent les avoir. Mais la situation de notre pays, et qui est la situation aussi de beaucoup de pays, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont les enfants, pas en nombre qu'ils ont voulu, et aussi pas au moment où ils veulent les avoir. Pour le cas de RDC, nous avons des jeunes filles qui ne sont pas mariées. Nous avons des femmes qui sont mariées, mais qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais qui sont en train d'en avoir. Donc l'importance de la planification familiale, c'est à ces niveaux-là, pour aider vraiment ceux qui veulent avoir les enfants, de les avoir au moment où ils décident et en nombre qu'ils veulent.
Voilà. Mais par rapport à ce programme au sommet de Londres de 2012, où les États se sont engagés à travailler ensemble pour permettre à 120 millions de femmes additionnelles d'avoir accès aux services aux contraceptifs modernes, pourquoi on met plus l'accent sur la femme et la jeune fille?
On met beaucoup plus d'accent à la femme et la jeune fille parce que les indicateurs sur lesquels on essaie de faire les évaluations touchent. Sont des indicateurs qui concernent la femme et la jeune fille. Mais la plus grande raison, c'est que la planification familiale, c'est finalement un élément important qu'on a vu que si on agit sur la planification familiale, on peut réduire de manière significative les nombres de femmes qui meurent pour des raisons de grossesse.
Voilà. Et on dit que ça permet aussi de réduire la pauvreté.
Oui, il y a beaucoup de corrélations entre la planification familiale et beaucoup d'éléments, l'économie, la pauvreté, la taille de la famille. Je prends l'exemple qui est très simple. Si ça passait dans une émission que je me rappelle bien depuis PSI. Un couple qui a un revenu fixe. Ils sont à deux, ils gagnent 100 dollars. Demain, ils deviennent à trois, ils gagnent 100 dollars. Après demain, ils sont à quatre ou à cinq. La question devient, est-ce que les 100 dollars qui existaient quand ils étaient à deux est le même que celui qu'ils ont actuellement? Et ça va même plus loin. C'est que si vous aviez une chambre, parce que vous étiez à deux, vous gagnez 100 dollars. Mmh. Le jour où vous avez plus d'enfants, vous avez besoin de
plus
beaucoup
de plus d'espace, oui.
Et beaucoup plus d'espace et donc beaucoup plus
de moyens.
Ce qui n'est pas toujours évident.
Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont dans notre pays les obstacles, les barrières qui font que beaucoup de couples, de femmes et de jeunes filles n'ont pas accès aux services de planification familiale?
Notre pays, d'abord, bien que les soins de santé primaire disent que la planification familiale, c'est un service qui devait être partout où il y a les services de services de santé, la situation, c'est que dans notre pays, il y a moins de la moitié des zones de santé actuellement ont des services de planification familiale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui n'ont pas assez accès aux services parce que ces services n'existent pas là où ils habitent.
Donc ces services n'existent pas dans presque tout le pays, on n'en trouve pas, il n'y en a pas assez.
Non, dans le pays, les services existent, mais sur les 516 ou 517 zones de santé, on a plus que 200 zones de santé où il n'y a pas de services de planification familiale. Ça veut dire, c'est des coins où les femmes sont là, parce que les femmes existent là-bas, et malheureusement, ces femmes n'ont pas accès aux services de planification familiale, alors que, de manière générale, on pense que les femmes ont besoin de ces services quand nous regardons les statistiques qui sortent.
Mais pourquoi ces services ne sont pas là?
Les services ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas organisés. Pour que ces services existent, il y a beaucoup de choses qu'il faut réunir. Mmh. Il faut réunir, si vous devez organiser les services au niveau des structures de santé, donc il faut réunir un personnel formé. Il faut en plus de ça être sûr que vous avez les produits à offrir. Et l'un des problèmes que nous avons, que le pays a actuellement, c'est celui de réunir les quantités de produits nécessaires pour répondre à la demande de la population. Si je peux rapidement rappeler, le lundi passé, quand on a célébré le midpoint de FP 2020, le ministre de la Santé, son Excellence Félix Kabangé, a clairement dit quel est le gap que le pays présente, quel est le plus grand pays et le plus grand problème que le pays a en matière d'accès à la planification familiale. Le premier problème, c'est le problème de la disponibilité des services qui est lié aussi à la disponibilité des produits contraceptifs.
Voilà, ça c'est le premier grand problème.
C'est le plus grand problème.
Le plus grand problème.
Oui.
Voilà, mais il y a d'autres barrières. On parle par exemple de la conception. Les gens disent non, la parole de Dieu dit, Dieu a dit, multipliez-vous, il faut avoir beaucoup d'enfants, remplissez la terre. Alors pourquoi recourir aux contraceptifs? C'est contre ce que Dieu nous a demandé de faire.
On ne demande pas aux gens de recourir aux contraceptifs. On donne plutôt des conseils aux gens pour qu'ils puissent avoir les nombres d'enfants qu'ils veulent et au moment où ils veulent les avoir. Il y a plusieurs types de méthodes. Il y a des méthodes naturelles qui existent, qui ne sont pas des contraceptifs. Et donc, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui ne veulent pas utiliser les contraceptifs peuvent accéder à des méthodes naturelles. Alors, la question de dire multipliez-vous, mais la question c'est aussi suffisez-vous. Il ne faut pas seulement avoir les enfants, mais il faut aussi être capable de prendre en charge correctement ces enfants-là.
Voilà. Il faut aussi être en mesure de prendre en charge les enfants. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Au Capidance, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capidance New Wave, tout tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Bien, comment faciliter l'accès aux services de planning familial à un plus grand nombre de femmes et jeunes filles? Nous avons déjà les réactions des auditeurs qui nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. John Kamunga nous a écrit, dit ceci, par rapport au planning familial, plusieurs causes peuvent expliquer le non-respect de cet aspect, notamment l'entrée tardive dans le mariage concernant les dames qui voudraient bien en profiter pour contourner la ménopause, l'absence d'une maîtrise de l'évolution du cycle menstruel dans certains couple, le chômage accru au pays et enfin la conception selon laquelle il faut grandir ensemble avec ses enfants et par conséquent les avoir vite et avant serait la meilleure solution. Alors pour une bonne connaissance de cet aspect, il est utile que la vulgarisation soit totale au niveau de l'État et de la famille par l'éviction du tabou dans l'enseignement, dans les dialogues intrafamiliaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à John Kamango, docteur Arsène?
D'abord je suis content qu'il ait soulevé ces points-là. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, c'est comme je l'ai dit, la planification familiale, c'est vraiment l'ensemble des moyens et techniques pour aider quelqu'un à décider du nombre et de quand est-ce qu'il peut avoir les enfants. Donc, même quand on entre dans les mariages très tardivement, je ne pense pas qu'on soit capable de commencer à avoir les enfants. Je prends un exemple, à 40 ans, et on veut en avoir 10. C'est pas possible. Il faut aussi se dire que plus vous avez des grossesses, plus une femme a des grossesses, plus elle est exposée à faire des hémorragies. Et plus elle est exposée à faire des hémorragies, plus elle expose sa vie. Et donc, la question des planifications familiales, elle est importante pour tout le monde. Quand nous prenons pour les jeunes, elles ont besoin, par exemple, de finir les études. Parce que l'effet de tomber enceinte avant de terminer les études, généralement constitue un grand frein. Pour beaucoup de jeunes filles, elles arrêtent d'étudier. Et quand on arrête d'étudier, c'est pas évident qu'on va revenir. Et pour le jeune garçon, quand on devient parent très tôt, la difficulté ça devient, est-ce qu'on sera capable de prendre en charge l'enfant qu'on vient d'avoir? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre en charge? Est-ce qu'on va être capable de continuer les études si jamais on n'a pas fini? Ça, c'est des questions qui sont liées à des questions de planification familiale. Donc, c'est une question de responsabilité. Beaucoup plus que d'autres choses. C'est pas un problème de religion. C'est un problème de responsabilité. Même la Bible veut que les gens soient responsables. Même quand on commence la vie très tard, on veut aussi être responsable. On veut que l'enfant qu'on a eu puisse grandir ensemble avec les deux parents. Parce que si vous planifiez mal, vous risquez de perdre un parent.
Mais est-ce qu'une jeune fille qui est d'abord chez ses parents peut aussi aller au service des planning familial ou utiliser les méthodes contraceptives modernes?
Oui, je crois qu'il faut poser la question autrement. Une fille qui est chez les parents peut. Elle peut si elle a besoin de ça. Parce que la question, c'est à ce niveau-là. Si elle vient chercher, ça veut dire qu'elle en a besoin. Si elle vient les chercher, ça veut dire qu'elle en a besoin. Elle en a besoin parce que probablement elle se retrouve dans des situations où elle pense qu'elle peut tomber enceinte alors qu'elle ne veut pas tomber enceinte. Quand vous regardez les statistiques, les recherches, vous allez voir que les filles commencent les relations sexuelles très tôt, parfois avant même 15 ans. Et si elle a commencé les relations avant 15 ans, ou à 15 ans, ou à 16 ans, avant 20 ans, elle ne veut pas avoir un enfant, c'est tout à fait normal qu'elle cherche comment, quels sont les moyens qu'elle peut utiliser. Et donc, c'est normal qu'elle vienne dans une structure de santé pour demander une méthode. Mais la difficulté commence à ce niveau-là. Ça commence à ce niveau-là parce que il y a des prestataires qui se constituent en frein, en obstacle. Une fille vient, elle a son problème. Au lieu d'aider à résoudre son problème, on commence plutôt à parfois à la condamner. C'est trop tôt pour toi. Pourquoi ceci? Mais dans l'entretemps, elle ne veut pas tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'entretemps, elle est dans une relation continuelle où les rapports sexuels sont acceptables, sont un fait banal. Mmh. Elle fait quoi? C'est comme l'exemple que l'on prend généralement, quand on va dans une classe, on dit, sur les 100 filles qu'il y a dans cette classe, il y en a 4 qui ne sont plus vierges. Chaque parent veut. Il va toujours dire, ce n'est pas ma fille. Mais au moins, il y en a 4. Donc, la question, c'est se rendre un peu à l'évidence. Mm.
Bien. Nous avons deux auditeurs en ligne. Comment faciliter l'accès aux services de planning familial à un plus grand nombre de femmes et jeunes filles? Gaston Kimbenza, vous êtes à Kinshasa, et Serge Kingi à Kindu. Gaston, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, M. Daniel. Ma première question, en fait, c'est une suggestion. Pourquoi ne pas élargir la sensibilisation au niveau des écoles? Parce que c'est par là que les problèmes commencent. Est-ce que, vu la matière, ça présente un tabou par rapport aux élèves et la deuxième préoccupation? Moi, je crois que les moyens qu'ils ont, ils peuvent partager ça avec le gouvernement pour créer des emplois. En tout cas, on peut avoir des centres de sensibilisation dans tous les pays, mais quand les gens ne travaillent pas, ils ne peuvent que procréer. Parce que celui qui ne va nulle part, il reste avec sa femme. Il nous explique un peu comment ils peuvent passer du temps sans avoir des enfants. Moi, je crois que le chômage, c'est même la première cause de cette procréation sans contrôle. Donc, je suggère à ce que la sensibilisation descende au niveau des écoles. Une fille en grandissant, elle comprend déjà qu'est-ce qu'elle attend par avoir un enfant, comment elle doit avoir un enfant, avant qu'elle termine ses études. Moi, je crois que c'est important à ce niveau-là.
D'accord, merci. Gaston Serge King, vous êtes à Kindu. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité du jour.
Bonjour.
Ouais. Quelle est votre question?
Bon, ma préoccupation. Ouais, j'aimerais juste un peu faire quand même un peu de contribution. L'irresponsabilité des parents fait à ce que les filles puissent se donner aussi à la sexualité. Comment ça? Parce que c'était un jour à Kisangani, dont une fille demandait quelque chose à son parent, et vous voyez maintenant la réponse de son papa là. Vous êtes déjà une grande fille, et toutes choses, je dois toujours vous les donner. Mais faites vos recherches pour que vous puissiez s'en bénéficier. Écoutez cette réponse-là. Mais ce que je vois est que l'Organisation de la Santé puisse un peu distribuer des préservatifs dans des différents ménages comme on a toujours distribué des moustiquaires. Je pense que ça, c'est une très bonne idée que j'aimerais un peu donner. Et face à ça, j'ai aussi l'exemple. Nous étions descendus un jour sur le terrain, aller quelque part au village, pour aller montrer comment l'utilisation des préservatifs dans le village quelconque. Mais nous avions eu comme des matériels didactiques, on a même eu des préservatifs, tout ce qui est essentiel à montrer aux gens. Après avoir leur montré, nous les avions montrés, on fait ceci. Maintenant, le lendemain, ils sont venus nous donner le rapport. Non, ce que vous nous aviez montré, en tout cas, nos femmes n'étaient pas satisfaite avec ces histoires-là, veuillez d'abord nous donner encore d'autres modèles pour que nous puissions les satisfaire. Mais donc, ils étaient découragés de ce que nous étions en train de les montrer. Maintenant, face à ça, quel est encore moyen que nous pouvons aller montrer à ces villageois-là pour qu'ils soient convaincus? C'est ça.
Merci. Serge Moulombo de Kikuit, bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Serge.
Bon, en fait, moi, j'ai des petites questions à poser à l'invité.
Oui.
Il parle des méthodes de planification. Certainement, on va parler des contraceptifs, plutôt des méthodes de contraception, quoi. Allô?
Oui, quelle est la question?
Oui, je voulais juste savoir quels sont les méfaits de toutes ces méthodes-là qu'on va un peu, appliquer aux femmes. Et la deuxième question, c'est de savoir... quel est l'écart idéal entre des naissances au moins? Ça, c'était mes deux questions que j'avais. Merci beaucoup.
Bien. Merci. Docteur Hassène, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je vais commencer par dire qu'il existe plusieurs méthodes. Et quand on dit qu'il existe plusieurs méthodes, parmi ces méthodes-là, vous avez les méthodes qu'on appelle les méthodes naturelles. On ne prend rien. On suit seulement des conseils et on ne tombe pas enceinte. Il y a des méthodes qu'on appelle les méthodes artificielles. Vous êtes obligé de prendre quelque chose. Mais parmi les méthodes artificielles, il y en a beaucoup. Le condom, c'est une des méthodes. Mais à côté du condom, vous avez les pilules, vous avez les implants, vous avez toute une gamme de méthodes qui sont liées à ça. Mais il y a une troisième catégorie de méthodes qu'on appelle les méthodes chirurgicales définitives. Quand vous prenez ces méthodes-là, et avant de vous le donner, les médecins insistent beaucoup sur le fait que si on vous donne cette méthode, vous n'allez plus jamais avoir d'enfant.
Quelles sont ces méthodes?
C'est, par exemple, les femmes ont fait la ligature et pour les hommes ont fait la vasectomie. Donc, vous allez continuer à avoir des rapports sexuels normalement, mais il n'y aura jamais communication entre... il n'y aura jamais communication où la femme ne va jamais recevoir les spermatozoïdes. Donc les rapports vont rester normaux. Seulement, la femme ne tombera pas enceinte ou l'homme sera incapable de rendre une femme enceinte.
Donc on coupe les trompes de la femme.
Oui, on coupe, on fait une section de la trompe et la femme ne va plus jamais avoir d'enfant.
Et pour l'homme, ça, qu'est-ce qu'on va couper?
Pour l'homme, on va couper ce qu'on appelle le cordon spermatique. Il y a un canal, dès qu'on coupe, les spermatozoïdes ne vont plus se mélanger au sperme. À ce moment-là, il va avoir des liquides, mais les liquides vont être stériles. Il va rien avoir à l'intérieur, ça va être vide et la femme ne peut pas tomber enceinte. Mais pour avoir accès à ces deux méthodes, on passe par beaucoup de conseils. Parce qu'on vous dit, dès qu'on le fait,
c'est fini.
C'est fini.
C'est irréversible.
Alors qu'avec les autres méthodes, vous pouvez commencer à utiliser la méthode tout de suite. Le jour que vous décidez d'arrêter, vous rentrez à la vie où vous pouvez avoir un enfant. Et donc, les méthodes, il y en a beaucoup.
Je vois là, vous avez même apporté dans ce studio, c'est comme un chapelet. Hein.
Oui, j'ai amené des méthodes, mais j'ai spécialement amené le collier du cycle, qui est une méthode naturelle. Mmh. En fait, ça montre, le collier du cycle, c'est une des méthodes naturelles. Il n'y a rien à prendre. Mais ça vous dit seulement, et ça vous montre, pour une femme qui est éligible, quels sont les jours pendant lesquels elle court le risque de tomber enceinte, et les jours où elle ne court pas le risque de tomber enceinte. Et si elle ne veut pas tomber enceinte, elle doit se comporter en conséquence. Soit elle s'abstient des rapports sexuels, soit elle utilise un autre moyen comme le condom pour ne pas tomber enceinte.
Et comment ça fonctionne ce collier, docteur?
Le collier du cycle, c'est une méthode naturelle, comme je l'ai dit, qui fonctionne uniquement pour les femmes qui voient leurs règles au moins une fois le mois. Ça veut dire que c'est des femmes, des jeunes filles, des femmes qui ont des cycles entre 26 et 32 jours. Ça veut dire entre 26 et 32 jours, généralement, elles doivent voir les règles. Et ces femmes-là sont éligibles. Alors, au moment où elles voient les règles, elle va noter que j'ai eu les règles aujourd'hui. Ensuite, elle fait déplacer un anneau sur le collier. Par rapport à la couleur de la perle, elle peut savoir aujourd'hui je peux tomber enceinte ou je ne peux pas tomber enceinte si jamais j'ai des rapports sexuels non protégés. Voilà un peu en gros comment ça fonctionne.
D'accord. Alors Gaston Kimbenza vous dit pourquoi ne pas aller sensibiliser les jeunes filles dans les écoles pour prévenir les grossesses non désirées. Et il dit que c'est le chômage qui fait que les gens mettent au monde les enfants un peu en désordre.
Oui, je voudrais dire d'abord qu'il existe un programme qu'on appelle Programme National de Santé des Adolescents. Ce programme existe depuis très longtemps, mais il faut dire que ce programme est en train de grandir. C'est un programme qui n'était pas suffisamment appuyé. Et ce programme, parmi les partenaires avec lesquels il travaille, ce sont des organisations qui ciblent les jeunes et les adolescents. Et parmi ces partenaires, nous avons un partenaire qu'on appelle... SCEV, Service d'éducation à la vie. Ce service a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Éducation pour que dans le manuel de formation des élèves, qu'on puisse intégrer les questions de la parenté responsable. Et donc là-dedans, par exemple, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui peuvent vous dire comment elles peuvent savoir qu'elle est pendant une période fertile, rien qu'en regardant la glaire. Ça, c'est des enseignements qui sont dans ce qu'on appelle l'éducation à la vie.
Et
l'éducation.
Mais est-ce que ça se donne dans
beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'écoles, il y a l'éducation à la vie. C'est vrai, c'est beaucoup plus les écoles catholiques qui sont restées avec ça, mais c'est un programme intégré au niveau du ministère de l'éducation. Nous avons été avec les ministres de l'éducation en janvier dans une conférence. Et il a clairement dit combien la planification familiale ou l'importance de cet enseignement était très important pour les jeunes. Parce que dans le groupe des élèves qui sont de recevoir, il y a des élèves qui ont déjà eu des enfants, mais qui sont retournés à l'école. Et donc, si on a déjà eu des enfants, on est retourné à l'école, ça veut dire on peut toujours en avoir. Comme ceux qui sont déjà à l'école peuvent, tout le monde le sait, à l'école, les gens ont des rapports sexuels. Donc, ça devient important de voir dans quelle mesure garder le plus longtemps l'enfant à l'école. Pour le garder le plus longtemps à l'école, c'est aussi lui donner des enseignements sur tout ce qu'il peut faire qu'il ne puisse pas rester à l'école. C'est entre autres des enseignements sur comment éviter une grossesse.
D'accord. On va accueillir Jean de Dungu avant de répondre aux autres questions. Jean, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité du jour.
Quelle est votre question, Jean? Veuillez à éteindre la radio ou diminuer sensiblement le volume de la radio pour éviter ces effets désagréables.
Ok, merci, monsieur le journaliste. J'ai deux questions à poser à notre invité.
Oui.
Oui. La première concerne, est-ce que le planning familial concerne l'homme qui a une seule femme ou bien ça peut concerner aussi l'homme qui a deux femmes, un polygame par exemple.
D'accord, merci. Raphaël de Colésie, bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à monsieur le docteur.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est la suivante. Nous avons assuré plusieurs formations concernant le planning familial. On nous a montré plusieurs méthodes qu'il faut appliquer, donc l'utilisation des préservatifs, l'utilisation, donc le respect du calendrier qui concerne le cycle œstral. On nous a donné encore la méthode qu'il faut utiliser les pilules, ainsi de suite. Mais nous avons fait un constat, nous avons trouvé que plusieurs personnes qui utilisent la méthode du respect du calendrier, donc du cycle œstral, parviennent toujours à faire des conceptions non prévues. C'est-à-dire il y a des grossesses non désirables suite au respect du méthode donc des calendriers œstral. Et puis la deuxième méthode qui consiste à utiliser des implants. Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs dames qui ont utilisé ces méthodes. Mais au moment où nous parlons avec vous, elles ne conçoivent plus. Soit elles règlent donc à chaque mois, mais il n'y a plus de conception. Alors nous voulons quand même demander à monsieur le docteur, il peut quand même nous expliquer ou bien essayer d'améliorer la façon dont il faut encore réencadrer la population pour mieux utiliser ces méthodes, afin qu'il n'y ait plus ces résultats qui sont très néfastes contre la population.
D'accord, merci docteur Hassan.
Merci beaucoup. Je continue avec les autres questions et puis je vais répondre aussi aux questions qu'on venait me poser tout à l'heure. Mmh. Donc, je voudrais dire que le gouvernement fait beaucoup de choses ensemble avec les autres partenaires qui sont dans la planification familiale. C'est vrai qu'on a très peu de zones de santé qui ont les services.
Plus de 200, vous avez dit.
Il y a plus de 200 qui n'ont pas de services. Mmh. Mais les efforts sont énormes. Parce que au moment où nous avons commencé à écrire notre plan stratégique national, parce que le pays a un plan stratégique écrit depuis 2013, qui a commencé en 2014, mmh. il y avait moins de 150 zones de santé. Actuellement, on est au-delà de 250 zones de santé. Donc, les progrès sont énormes. Mais les besoins sont toujours là. À côté d'avoir des services dans les structures de santé, le gouvernement a vraiment privilégié ce que nous appelons la distribution communautaire. De plus en plus, vous allez voir des gens dans la communauté qui viennent vous parler de la planification familiale et qui ont des méthodes qui peuvent vous proposer et c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient et ces personnes vont vous donner des conseils sur comment correctement
utiliser ces méthodes.
Ils font du porte-à-porte, ils font beaucoup de campagnes, donc ça dépend, c'est sous plusieurs formes, mais c'est aussi une stratégie, c'est simplement une stratégie utilisée actuellement par le gouvernement et ses partenaires pour le plus possible offrir ces services, probablement à ceux qui en ont besoin, mais qui ne savent pas aller à l'hôpital. L'hôpital, il y a tous les coûts, il faut payer les transports, il y a tous les coûts, il faut payer parfois la consultation, alors qu'avec ceux qui font le porte-à-porte, généralement, le coût est suffisamment réduit. Oui. Alors, est-ce que la planification familiale est nécessaire pour un homme qui a plusieurs femmes ou bien qui a une seule femme? La question devient, si vous avez une femme, vous devez arriver à vous mettre d'accord sur le nombre d'enfants que vous voulez et quand est-ce que les avoir. Que j'ai une femme ou que j'ai cinq femmes, la question c'est qu'avec chaque femme, on a besoin de discuter sur quand et combien d'enfants. Plus la femme a d'enfants, plus elle est exposée, ça on l'a dit. Donc si vous avez plusieurs femmes, vous pouvez planifier avec chacune des femmes. Mais la question devient rattrape au fait l'homme. S'il a plusieurs femmes, il peut avoir la chance, appelons ça la chance, d'avoir plusieurs enfants. Mais est-ce qu'il a les moyens? Donc, la planification, ça concerne chaque couple. Quand on parle du couple, on voit l'homme et la femme. Mmh. Si l'homme a plusieurs femmes, chaque fois qu'il a sa femme, ça fait un couple. Et donc, ce couple a besoin d'utiliser une méthode de planification familiale.
Et d'ailleurs, on dit qu'il faut une forte implication des hommes aussi dans, pour accompagner leurs femmes dans les services de planning familial.
Oui, la planification
sensibiliser
familiale...
Sensibiliser les hommes et les jeunes garçons.
La planification familiale, ça demande beaucoup de décisions. Et on a fini par voir que la femme seule ne peut pas décider. Parce que le besoin d'avoir les enfants ou d'avoir les rapports sexuels ne viennent pas forcément de la femme. D'ailleurs, il y a très peu de femmes qui expriment les besoins d'avoir des rapports sexuels. Ce sont les hommes, beaucoup plus, qui l'expriment, qui exigent. Et donc, parfois, la femme se retrouve coincée et ne sait pas dire non quand elle sait que mais je cours le risque. En ce moment-là, ça devient important que cette question de dire combien d'enfants on aura soit une question qui intéresse le deux. Cette question de voir le lien entre plus d'enfants, plus on expose la femme à mourir, devrait être une question qui doit être discutée et avec l'homme et avec la femme.
D'accord. Serge nous dit, parfois c'est l'irresponsabilité de certains parents qui incitent les enfants à la prostitution, ça c'est un problème d'après lui. L'enfant demande quelque chose à ses parents et ils disent, mais tu as déjà grandi, va te débrouiller. Qu'est-ce que pouvait dire Serge à ce sujet?
C'est très complexe. Quand un parent dit à l'enfant va te débrouiller, il ne dit pas va te prostituer. Il ne dit pas va prendre un homme. Il peut dire, tu peux vendre. L'enfant peut vendre le pain. Il y a des enfants qui ont grandi, qui peuvent faire quelque chose.
Il faut un capital au départ.
Oui, le capital peut être banal. Le capital peut être quoi? Si vous avez, je prends un exemple très simple. Nous, on a été à l'université. Le capital qu'on avait, c'était quoi? Avoir une houe. Et la houe, tu peux l'avoir du voisin. Tu fais un champ. Tu produis ce que tu peux produire. Et puis après, tu te débrouilles avec ça.
Pour faire les champs, il faut des semences. Et les semences, il faut les acheter.
Pas forcément. On fait les semences quand on accède à un autre niveau. Mais si on veut vraiment, on peut commencer par les tout petits.
D'accord.
Et donc, la question devient aussi pour un parent qui dit à un enfant, va te débrouiller. Il ne dit pas, va forcément te prostituer. Il ne dit pas forcément, va attraper une grossesse. Il dit, il y a des choses que tu peux faire, qui peuvent faire que certains besoins que tu as ne puissent pas être des besoins qui retombent sur moi.
Bien, il nous dit, il a fait une démonstration avec certains villageois sur l'utilisation du condom, mais le lendemain, ils sont revenus lui dire, c'est Serge qui nous dit, ils sont revenus pour dire que non, les dames n'ont pas apprécié ça, la méthode-là n'a pas marché. Quelle autre méthode il peut proposer à ces villageois?
Il y a plusieurs méthodes, comme je l'ai dit, et la question, c'est de savoir si le calendrier a été correctement utilisé. Ça, c'est d'abord une chose. La plupart des gens utilisent la méthode de calendrier sans savoir exactement comment on l'utilise. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'erreurs. C'est la raison aussi qui justifie aujourd'hui pourquoi on a développé le collier du cycle. Malheureusement, le collier, c'est pour une catégorie de femmes. Alors que les calendriers, beaucoup de femmes peuvent l'utiliser, mais il faut savoir correctement quelle est la période pendant laquelle la femme court les risques de tomber enceinte. Et c'est à ce niveau-là qui se pose des problèmes. Beaucoup de gens ont tendance à utiliser les calendriers par rapport à 28 jours de cycle, alors que les femmes n'ont pas toujours 28 jours de cycle. Il y a eu la question des implants. Avant de répondre à ça, je vais seulement dire, les implants, c'est un médicament. C'est comme la quinine. Quand vous prenez la quinine, on vous dit, vous pouvez avoir des vertiges. Vous pouvez avoir des bourdonnements. Vous pouvez avoir faim. Vous pouvez. C'est la même chose quand on fait la formation des prestataires, donc des personnes qui vous offrent les services. On insiste sur expliquer chaque méthode. Comment ça fonctionne, comment il faut l'utiliser,
les effets secondaires.
Oui. Et donc, les effets secondaires doivent être enseignés. Et quand une femme sait que, en prenant ce produit, je vais avoir tel effet secondaire, elle peut aussi poser la question, mais c'est une question que nous demandons au prestataire de lui dire, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a tel effet secondaire?
D'accord. On va accueillir les deux derniers auditeurs. Maître Ferouzi nous appelle de Kindou et Jérémy de Kikuit. Maître Ferouzi, bonjour.
Bonjour Ado Papi, bonjour.
Tous les auditeurs. Quelle est votre question?
Ma question, c'est si je vais partir d'abord d'un cas de type à moi.
Oui.
Oui, allez-y. Depuis que je me suis marié, c'était en 2000. Jusqu'à présent, j'ai déjà 5 enfants.
Oui.
Alors, ma femme, dès qu'elle a l'enfant, elle ne règle plus s'il faut ainsi appeler cela, parce que dès qu'elle le met au monde, elle va encore régler après l'âge de l'enfant. Si l'enfant va têter pendant 2 ans et demi, pendant toute cette période là-bas, elle ne va pas régler. Alors, j'ai voulu demander à l'invité, est-ce que c'est une maladie, parce que ma femme n'a aucune douleur pendant toute cette période là-bas, elle n'a pas de douleur abdominale ou quoi. Est-ce que le fait là de rester pendant 2 ans et demi sans régler, c'est une maladie? Si oui, quelles sont les causes et comment y remédier?
D'accord, merci. Jérémy nous appelle des Kikuit. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit que...
Quelle est votre question?
Merci. Je donne un témoignage pour mon cas. Je me suis marié il y a de cela 3 ans. Mais dans 3 ans, je suis parvenu à avoir au moins 3 enfants. Alors j'ai utilisé l'une des méthodes qu'on a montrées pour le planning familial. Alors pour moi, j'ai trouvé que c'est une source maintenant de dépenses. Comment? Ma femme, dès qu'elle a utilisé l'une des méthodes, et c'est vrai qu'elle ne s'arrêtait même pas. Elle a fait 3 ans qu'elle a écoulé toujours. Et j'ai eu ça à Kinshasa. Je me suis déplacé pour qu'il puisse. J'ai appelé celui qui avait utilisé les méthodes. Il m'a dit qu'elle puisse venir.
Et il s'agit de quelle méthode, hein?
Bon, malheureusement, je n'ai pas retenu les noms des méthodes parce que je n'ai pas les passés avec ma fille. Alors, la femme s'est déplacée. On a changé, on a écrit, on a prescrit quand même un médicament et ça ne s'éteignait même pas. Alors, comment, je me suis demandé, comment une méthode peut devenir maintenant une source de dépenses pour moi? Chaque mois, je suis en train de dépenser au moins quelques sommes pour peut-être mettre fin à l'écoulement que la femme fait. Je voudrais maintenant savoir comment mettre fin à cette situation-là.
D'accord, merci. Docteur Hassan.
Ok.
Il y a Jérémy qui dit il a 3 enfants, pardon, Maître Ferouzi, il s'est marié en 2000, disons, il a 5 enfants et quand sa femme allait, elle n'a plus ses règles depuis 2 ans. Alors il veut se demande si c'est une maladie ou pas. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Peut-être qu'il ne va pas répondre, mais la question c'est, est-ce que ça l'inquiète? Je ne sais pas si ça l'inquiète, mais si c'était mon cas, je serais très content. Parce que sinon, je vais me retrouver en train d'avoir les enfants probablement que je n'ai pas prévu. Je vais lui donner une réponse qui est très simple. Il y a beaucoup de femmes, quand elles ont leurs enfants, parfois elles tombent enceintes alors que l'enfant est encore tout petit. Peut-être l'enfant a 2 mois, l'enfant a 3 mois, l'enfant a 4 mois. Mais lui, la chance qu'il peut aller jusqu'à plus longtemps. Mmh. Et donc, il y a une méthode que nous appelons la mama. Cette méthode convient pour les femmes qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas encore des règles, et que leur enfant tète exclusivement au sein. Donc, une femme qui vient d'accoucher, qui n'a pas encore des règles, et qui fait téter son enfant seulement au sein, cette femme-là a beaucoup de chance, beaucoup de possibilités de ne pas tomber enceinte pendant ce temps.
D'accord, on va organiser une autre émission, on va parler de chaque méthode. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au dernier auditeur qui dit que sa femme, on lui a donné une méthode, mais elle fait des hémorragies, et ça devient une source de dépenses pour lui. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Oui, je l'ai dit au début, pour chaque méthode qu'on donne, on doit expliquer c'est quoi la méthode, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut arriver. Et donc, il y a des méthodes comme les injectables. Pour certaines femmes, la femme peut commencer à avoir des saignements abondants. Et tout ce qu'on demande, c'est à la femme de rentrer dans la structure de santé et le prestataire va lui dire exactement qu'est-ce qu'elle doit faire. Si la femme ne supporte pas cette méthode-là, on peut choisir une autre méthode. On peut lui demander de choisir une autre méthode.
Docteur Hassan, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut pour faciliter l'accès à un plus grand nombre de femmes au service de planning familial et que la RDC soit au rendez-vous de 2020?
Pour le cas de la RDC, un peu comme l'a dit son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, le pays a beaucoup de volonté pour faire accéder à ces services les plus de femmes possibles. Mais le pays est aussi buté à un problème de moyens. Quand j'ai pas de moyens, quand j'ai pas du pays, je vois ce que le gouvernement peut mobiliser et je vois aussi ce que les partenaires mobilisent. Dans sa présentation, le ministre a présenté quels sont les besoins actuellement en planification familiale. C'est dans les 570 millions. Mais le pays est capable de mobiliser moins de la moitié.
Voilà, donc il y a un problème de moyens, il faut des ressources financières pour faire avancer la Ligue. Docteur, on s'arrête là pour aujourd'hui, on aura l'occasion de continuer la fois prochaine. Je rappelle que vous êtes docteur Arsène Binanga, directeur pays des Tulane University et président national du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale à RDC. À la prochaine.
Merci, à la prochaine.